Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court. Tous les soirs, une conversation pendant une heure avec les artistes, ce soir avec Julia Deck.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Julia Deck.
Les flics sont repartis. Sans doute ont-ils aperçu nos silhouettes derrière la fenêtre, car en repassant devant chez nous, ils ont jeté un regard dégoûté sur mes soucis, et avant de remonter dans leur véhicule, celui qui était déjà venu pour le chat a déclaré à son collègue que nous étions tous des maboules. C'est la fin de la page 110 de votre dernier roman, Julia Deck, et cela pourrait être l'une des plus saines conclusions à en tirer. On est tous des maboules, on fait tout et tous avec nos mabouleries, avec nos fantasmes qui s'effondrent, avec nos petitesses, nos fragiles convictions politiques, nos désirs et nos mauvais aménagements, des espaces psychiques, des espaces intérieurs et des espaces urbains. Il est important de préciser que la maboulerie est généreusement distribuée chez les gens tout bien tout honneur et que nous nous cognons, nous et nos existences et nos désirs sur la normalité qui est une maboulerie parmi d'autres. La propriété privée ne protégeant d'aucune des violences, les empirant peut-être, votre roman est à lire, à relire et à relire par les temps qui courent. Bonsoir à vous. Et bienvenue, Julia Deck.
Bonsoir.
Propriété privée, paraît aux éditions de Minuit, en cette rentrée. Et on aime bien commencer par le début, donc on va pas se priver.
J'ai pensé que ce serait une erreur de tuer le chat, en général et en particulier, quand tu m'as parlé de ton projet pour son cadavre. C'était avril déjà, 6 mois que nous avions emménagé. Les maisons neuves rutilaient sous le soleil mouillé, les panneaux solaires scintillaient sur les toits et le gazon poussait dru des deux côtés de l'impasse. Tu m'avais accompagné à l'extérieur pendant que je rempotais les soucis sous la fenêtre de la cuisine. Les feuilles s'ébattaient entre mes mains gantées et parmi elles, les bourgeons gonflés à bloc, prêts à éclater sous la puissance des fleurs. Tu avais réfléchi à tous les détails pour rossir le gros rouquin. Comme tu les exposais tranquillement, adossé à la porte d'entrée, j'ai continué de creuser la terre sans répondre. Sans doute ruminais-tu sous le coup de la colère, et tes mots n'auraient-ils pas plus de conséquences que lorsque tu t'emportes sur la cuisson de la viande ou l'accumulation de calcaire au bord de la douche. J'ai tassé la terre, étalé les racines au fond du trou. Je me suis dit que tu parlais par provocation. Que si tu avais la moindre intention de passer à l'acte, tu aurais insisté pour rentrer à l'abri des oreilles indiscrètes. Tu savais très bien qu'ici, rien ne demeurait caché. Oui. Oui, c'était des mots gratuits pour semer le doute, agiter l'air.
Il y a le surprise et le suspense. Pour le surprise, par exemple, il y a dans cet studio une bombe. Nous parle pour 5 minutes, et la fin de 5 minutes, la bombe explose. C'est une surprise. Pour suspense, le public connaît la bombe est là. Et dans 5 minutes, la bombe explose. C'est suspense. J'aime le suspense.
Alfred Hitchcock, qui en 1984 fait la différence entre la surprise et le suspense. Grosso modo, il y en a un où on sait que ça va arriver et la tension et l'intérêt est qu'est-ce qui se passe avant que ça arrive. Et puis il y en a un autre où on ne sait pas et puis il y a la surprise de la bombe qui explose. Avant qu'on en revienne à parler, Julia Deck, de cette incipit de votre roman, vous diriez que vous êtes plutôt de quel goût ?
Entre suspense et surprise,
ah ouais.
J'aime assez bien les deux, à vrai dire. Il me semble la surprise, c'est momentané à l'intérieur d'une scène quand il se produit quelque chose qu'on n'attend pas du tout. Et le suspense, ça a peut-être plus à voir avec la construction du roman. C'est quelque chose qui se construit dans la durée.
Oui, j'allais dire que ça engageait presque une forme de technique de l'écriture. La question du suspense. Oh, la surprise aussi, peut-être.
Oui, sans doute. Mais alors la technique, à vrai dire, moi, j'ai pas d'opinion théorique sur la technique, parce que ma technique, je la construis en écrivant et en réécrivant et en réécrivant beaucoup, jusqu'à me dire à me poser la question sur est-ce que je m'ennuie, est-ce que l'écriture est suffisamment tendue, est-ce que j'ai suffisamment de surprises moi-même quand j'enchaîne les scènes à la relecture. Donc voilà, c'est pas une technique bien élaborée, à vrai dire.
Quand même, on sait pas, c'est peut-être des heures et des heures de relecture et de réécriture, c'est technique ça.
Ah, c'est beaucoup plus de réécriture que d'écriture. Oui, l'écriture, à vrai dire, l'écriture, c'est la phase la moins agréable du travail. La réécriture, le moment où on affine, le moment où ça se construit, où ça prend forme, où les personnages prennent chair, ça c'est vraiment le moment où il y a vraiment un plaisir d'écriture, ouais.
En tant que lectrice, moi j'ai eu plusieurs fois des surprises même au détour d'une phrase ou à la fin d'un chapitre. Est-ce qu'il vous est arrivé, alors peut-être plutôt pendant la réécriture, Julia Deck, d'être surprise par les actes, les passages à l'acte ou les mots de vos personnages ?
J'ai été surprise du développement du livre parce que, à vrai dire, je m'étais mon projet au départ s'arrêtait à peu près à la moitié du livre. Donc, il s'agit d'un couple qui est de Parisiens bien sous tout rapport, qui emménage dans un écoquartier. Et pour moi, le livre, il était sur cette expérience de vie dans l'écoquartier. Et puis finalement, arrivé là où j'avais l'intention plus ou moins de mettre un terme au roman, je me suis aperçue que j'avais envie de partir dans une intrigue réellement policière. Donc toute la deuxième partie du roman, à vrai dire, m'a surprise. Mais c'est là que je me suis le plus amusée.
Oui, j'allais poser la question. Agréable surprise.
Ah oui, agréable surprise. Oui, c'est. Ben, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive que le projet prenne un cours vraiment différent de ce que j'avais à peu près décidé au départ.
Pourtant, c'est pas la première fois que ça vous arrive qu'il y ait du meurtre dans l'air.
Non, il y en a finalement, j'ai pas tué tant de gens, je m'aperçois rétrospectivement, enfin dans les livres, mais j'aime bien laisser, oui, en fiction bien sûr, mais j'aime bien laisser planer le doute. Cette ambiance de possibilité d'un meurtre.
C'est ça. Et on entendait dans la voix de Lucie Riandet qui lisait l'incipit que cette possibilité d'un meurtre, elle est là dès le départ. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de tuer le chat ? On commence déjà avec un meurtre en suspens. Mais avant qu'on parle de l'ouverture du livre qui me paraît importante, j'aimerais bien que vous nous parliez de cette sensation étrange qui est que quand vous écrivez, c'est comme si il y avait toujours on entendait toujours autre chose. Je vais essayer de préciser ma pensée. C'est-à-dire que, par exemple, là, évidemment, les soucis qui sont les fleurs, on entend les soucis aussi matériels et psychiques, remettre des choses au fond du trou, on entend aussi la dimension dépressive de certains des personnages. Et j'ai toujours l'impression que vous avancez au moins avec 4 couches de langage, mais un peu consciemment.
Un peu consciemment, oui, parce que il me semble le processus d'écriture, c'est un processus un peu conscient, à peu près conscient. Ce que j'ai compris en écrivant dans les premières versions de mes premiers manuscrits, c'est de jamais négliger les détails matériels, les détails concrets. Je pensais au début, quand je voulais écrire, qu'il fallait nécessairement se livrer à des longs développements psychologiques sur ces personnages. Et peut-être qu'on peut le faire, mais moi je suis vraiment pas douée pour ça. Et j'ai compris en revanche que ce qui m'intéresse, c'est clairement les personnages ambigus, et que pour les décrire, pour les définir, pour leur donner une existence, finalement, les objets qui les entourent, le rapport qu'ils ont à ces objets, donc les soucis, les fleurs sur le rebord de la fenêtre, le chat, le gros rouquin qui passe d'un jardin à l'autre, finalement, sont des objets beaucoup plus signifiants quand on oriente le regard sur le rapport entre les personnages et ces objets.
Mais justement, puisque vous utilisez le mot signifiant, le fait que le signifiant, les mots, soient si équivoques et qu'ils nous fassent sourire, justement, bon, pour prendre les deux exemples que je relevais, à savoir le fond du trou ou les soucis, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous jouez, ou est-ce que c'est simple, ou vous constatez simplement que c'est équivoque et que ça tombe bien?
Il m'arrive de chercher un petit peu l'équivoque quand même, oui. Et après je fais un pari que le lecteur il sera sensible. Et puis après tout, si on veut prendre les mots au pied de la lettre et que ça marche aussi, moi ça me convient. Enfin, j'aime bien me dire qu'il y a plusieurs lectures possibles d'un livre. Je propose des personnages, je propose une intrigue. Moi j'ai l'impression de voir où ça va, mais on peut aussi. C'est l'intérêt des personnages ambigus, c'est qu'on peut avoir sa propre interprétation.
Qu'est-ce qu'il faut installer pour vous, pour ce roman, dans la première page ou la première page et demie dont le début a été lu par Lucie Riandet?
Il fallait installer le couple principal, donc ce couple de Parisiens qui a une cinquantaine d'années, qui a rêvé d'accéder à la propriété dans un cadre verdoyant correspondant à ses valeurs, et il fallait installer l'ambiguïté, puisque une fois qu'ils accèdent à leur rêve, on est 6 mois plus tard et rien ne va plus. Donc j'avais besoin et des personnages et du décor. J'ai pensé que c'était pas utile de m'étaler sur le concept de propriété privée, sur le concept d'écoquartier. J'ai pensé qu'en montrant le décor comme un décor de cinéma même, on pouvait se sentir peut-être mieux dans la scène que si je procédais par développement théorique.
Et pour autant, c'était deux choses qui théoriquement étaient moteurs dans l'écriture du roman, à savoir qu'est-ce que c'est que la propriété privée et que sont ces nouveaux quartiers dits écologiques qu'on construit parfois au cœur des grandes métropoles et le plus souvent dans ce qu'on appelle les périphéries ou les banlieues.
Oui, il y a le concept de propriété. J'ai l'impression que l'accès à la propriété c'est devenu le nouveau rêve d'un peu tout le monde. Enfin, à Paris spécialement dans les grandes villes, il y a des moments j'ai l'impression qu'on ne parle plus que d'immobilier, en particulier parce que c'est devenu très très difficile d'y vivre, c'est devenu extrêmement cher. Mais il me semble, bon, j'ai toujours vécu à Paris, il me semble qu'il y a 10-20 ans on parlait pas tout le temps d'immobilier comme ça. Et il y a ce rapport un peu étrange entre le rêve d'avoir une maison à soi et puis ce truc de repli. J'ai pensé aussi constamment à ces panneaux qu'on voit partout dans la rue, propriété privée, ne pas rentrer. Donc c'est à la fois un rêve de confort et en même temps une défense d'entrée.
Dans la rue ou à la campagne, hein, parce que ça c'est aussi des petits panneaux qu'on peut voir, on se promène hyper agréablement dans une forêt ou dans un chemin et puis on se voit entravé dans notre errance parce que on arrive sur des terrains de propriété privée.
Absolument, absolument. Le cadre est plutôt urbain, mais on voit ces panneaux absolument partout. Et quant à l'éco-quartier, il était central, puisque il s'agissait de m'intéresser à, sachant que les Parisiens ne peuvent plus tellement vivre à Paris, ils songent de plus en plus à s'excentrer, on dit s'excentrer, s'excentrer vers des nouveaux quartiers qui poussent aux portes de Paris et de plus en plus loin avec le Grand Paris, un peu comme des champignons. Et donc on parle beaucoup de ces écoquartiers. Cela dit, je me suis aperçue en me promenant depuis que j'ai commencé l'écriture du livre que les écoquartiers, maintenant, il y en a absolument partout. On construit 6 maisons avec des panneaux solaires et un compost, on appelle ça écoquartier et tout le monde est content, la municipalité, les habitants, enfin voilà. Donc voilà, c'était une tendance de la ville nouvelle ou du village nouveau qui m'intéressait.
On peut dire que le livre est une sorte de tentative de réponse à une énigme posée il y a longtemps dans un des premiers recueils de poésie de Houellebecq, je crois que c'est dans Poursuite du bonheur peut-être. Il nous faudrait une forme littéraire qui tienne compte de l'existence de Dieu et de celle des parkings souterrains. Et je trouvais ça très drôle, bien et très drôle. Et soudain, en fait, j'ai compris
pas que mal.
Et j'ai compris qu'en fait, on n'avait pas besoin de Dieu tout pendant qu'on avait des extracteurs d'air puissants dans des parkings souterrains. Tout pendant que la ville fonctionnait. Et à un moment, mon personnage, une extase quasi religieuse dans l'un des souterrains routiers des Halles, ces souterrains routiers qui sont condamnés par les dernières rénovations. Et là, il sent qu'en fait, la ville est tout intégrée, la ville est comme une sphère, l'homme est seulement, l'homme est devenu son dernier paysage et on vivra pour l'éternité dans un paysage humain, mais on aura la capacité tout le temps de le rendre habitable, il y aura des téléphones régulièrement sur les autoroutes et toutes ces choses qui ont pu horrifier, enfin, que Houellebecq a très bien montré comme quelque chose d'absolument horrifique dans la modernité, je pense à ça parce qu'au Palais de Tokyo, dans l'exposition que Houellebecq a fait, il expose un péage autoroutier, et la chose est en soi effrayante et en soi houellebecquienne et un petit peu triste et présente une sorte de modernité triste où on finit par comme ça sous des péages ou des ciels gris. Et en fait, je peux pas m'empêcher de voir aussi ce péage comme une sorte de temple grec, un truc qui nous relie aux éléments, qui exprime notre profonde nature humaine. Et donc, je suis une sorte de houellebecquien optimiste et je pense que dans la ville moderne, en tout cas, la ville moderne est un culte religieux suffisant.
On entend Aurélien Bélanger en 2017 ici au micro de Laure Adler dans l'émission L'Heure Bleue. Aurélien Bélanger qu'on peut entendre tous les matins dans la matinale de Guillaume Herner sur France Culture. Alors il parlait là à l'occasion de la publication de son livre Le Grand Paris et citant ou à partir de Houellebecq, il dit il faudrait une forme littéraire qui tienne compte de l'existence de Dieu et des parkings souterrains. Ça vous a fait beaucoup rigoler,
oui,
Julia Deck.
Oui, ça m'a fait beaucoup rire. Et bon, à titre personnel, moi aussi j'ai beaucoup plus de rapport avec les parkings souterrains qu'avec Dieu. Les parkings souterrains et même les parkings en plein air et le béton en général, je trouve qu'il y a une espèce de poésie tragique du béton qui est un matériau qu'on a beaucoup diabolisé, qui a construit les villes modernes après la deuxième guerre et c'est un matériau qu'on voit comme massif alors que c'est aussi extrêmement fragile
et hyper rapide à faire.
Hyper rapide à faire, et puis qui dure pas si bien qu'on l'imagine. C'est aussi un des contrastes du livre, c'est que les habitants sont dans un nouveau quartier flambant neuf où là voilà on a l'impression que rien ne se fissurera jamais. Et le personnage principal, Eva Karadec, elle est urbaniste, elle travaille sur la rénovation d'un grand ensemble à l'intérieur de Paris, donc ces grands ensembles qui étaient destinés au fort de tous et où maintenant plus personne ne veut aller, mais ça fait partie de nos ruines, des ruines avec lesquelles il va falloir vivre parce qu'elles sont impossibles à démolir en fait.
Vous dites que vous avez une relation particulière à ça, Julia Deck, et à la ville, à l'urbanisme, à l'architecture. Je parlais en introduction de l'aménagement des espaces, tellement pour moi il y a une sorte de relation hyper imbriquée entre l'espace psychique, l'espace intérieur et l'espace de la ville dans vos romans, dans celui-là singulièrement, mais finalement souvent quand vous écrivez, les espaces, ils peuvent être des métaphores comme ça de poupées russes. Vous vous intéressez clairement dans ce livre, à un moment donné, à l'histoire de ce quartier de la Place des Fêtes dans Paris 19e. Ça veut dire que ça a été un des endroits de recherche pour écrire propriété privée, d'aller voir qu'est-ce que c'est que des plans urbanistiques dans les années 50, 60, 70, qu'est-ce que c'est aujourd'hui en presque 2020.
Oui, à vrai dire, c'est un lieu, la Place des Fêtes à Paris, où, près duquel j'ai longtemps habité et qui m'a toujours émue quand je suis arrivée dans ce quartier. C'était il y a presque 20 ans maintenant. On me disait surtout, il faut pas descendre au métro à Place des Fêtes, c'est un coupe-gorge, il va t'arriver des choses absolument épouvantables. Donc j'ai mis longtemps à l'approcher et puis bon, ben finalement c'est juste que c'est un quartier qui est plutôt laid, qui est en phase de rénovation, à vrai dire, et qui est mal aimé, mais je pense que plus que ces projets immobiliers flambant neufs qu'on essaye de nous vendre en permanence, je suis davantage sensible à l'architecture mal aimée. J'avais fait un autre livre il y a quelques années qui s'appelait Le Triangle d'hiver, où le personnage principal circulait beaucoup à travers le Havre, donc une ville qui a été entièrement reconstruite dans les années 50, et les habitants
béton sont... là aussi Auguste
Perret, voilà,
etc.
le béton dans toute son ampleur ou même sa splendeur. Mais les habitants sont partis parce qu'ils trouvaient ça extrêmement laid. Et puis
et
finalement,
tous.
Beaucoup sont partis. Enfin, les banlieues ont été en plein essor à ce moment-là parce que voilà, on trouvait cette architecture trop audacieuse. Et puis maintenant, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, je sais pas, peut-être la Place des Fêtes sera aussi un jour classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un peu de chemin à faire quand même.
Dans votre écriture, vous diriez que c'est quoi la relation entre ces espaces qui vont être immenses, par exemple les grandes tours de la Place des Fêtes ou d'autres banlieues parisiennes, et peut-être la tête du compagnon d'Eva et son espace psychique, ou la tête d'Eva et son espace psychique. J'ai l'impression que votre texte les met en relation, voire en tension.
Ce qui découvre ce couple de Parisiens qui rêvent de verdure, c'est que l'habitat, le quartier, la ville agit sur nous profondément, psychiquement. C'est un couple qui fonctionne à peu près bien depuis 30 ans. Ils ont leurs dysfonctionnements, ils ont leurs petites manies. Lui, il est complètement neurasthénique, elle tient pas très bien ses nerfs, mais enfin, ils se connaissent très très bien l'un l'autre, et ça fonctionne dans l'anonymat de la ville. Et puis, quand ils emménagent dans cet écoquartier, tout d'un coup, ils découvrent la vie de village, où tout le monde se voit, tout le monde s'entend, vous ne pouvez rien ignorer de vos voisins, ils n'ignorent rien de vous, et tout d'un coup, leur couple qui s'est construit dans l'intimité, l'anonymat, commence à tanguer parce qu'ils sont sans cesse sous le regard de l'autre. Alors qu'ils pensaient, ils pensaient trouver le calme en s'éloignant de Paris, mais finalement ils perdent une grande dose de liberté et d'anonymat.
Et c'est une des pertes d'illusions qui existent, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui s'effondrent au fur et à mesure que le jardin de cette petite résidence de maison côte à côte est troué, creusé lui aussi. On voit que les plein de fantasmes s'effondrent, plein d'illusions, plein de récits de normalité, plein d'images de familles parfaites, plein d'images de couples hyper fonctionnels et hyper épanouis, comme si c'était aussi un peu le roman de ça, Julia Deck. À un moment donné où le fantasme tombe le masque, et qu'est-ce qui reste?
Oui, c'est peut-être un roman de la porte ouverte versus la porte close. Donc, dans cet écoquartier, il y a 8 maisons, 4 et 4 qui se font face. Et dans l'allée centrale, tout le monde semble jouer le jeu de la normalité. Tout le monde partage les mêmes valeurs. Tout le monde se retrouve au compost. Tout le monde est favorable aux énergies renouvelables, etc. Et puis, une fois que les portes sont refermées, évidemment, ça se passe pas exactement comme ça. On est plutôt sur ce couple principal, on voit plutôt les choses de leur point de vue et on n'est plus particulièrement amené à connaître leur manie à eux, mais tous les voisins, les uns après les autres, interviennent à un titre ou à un autre, et on se rend compte qu'ils sont pas tout à fait ce qu'ils donnent à voir dans l'allée principale.
D'ailleurs, puisque vous parlez de point de vue, il y a au moins deux régimes d'énonciation. Il y a une adresse avec le tu de la part de cette personnage Eva, et puis il y a une forme de récit qu'on dirait omniscient, avec une sorte d'alternance. Elle nous raconte, elle dit qu'elle est très rationnelle, qu'elle connaît les événements. Comment vous avez comme ça circulé d'une position à l'autre, Julia Deck, dans l'écriture? Et comment ces deux régimes-là d'écriture vous sont arrivés?
Alors, je me suis aperçue au cours de l'écriture d'un précédent roman que le pronom personnel que je préférais employer, c'était la première, c'était le jeu. Ce que je m'interdisais de faire dans mes premiers écrits, parce que je pensais que je, c'était la personne de l'autofiction, de l'autobiographie, qui est pas un genre que je pratique, même si je peux le lire très volontiers. Mais ce que j'ai découvert, c'est que dire je, quand ce n'est pas soi, c'est absolument jubilatoire. J'imagine que c'est un peu comme un acteur peut endosser un rôle. Il y a quelque chose, évidemment, on donne quelque chose de soi à son personnage, et puis on prend quelque chose du personnage, donc il y a cette ambiguïté avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à jouer. Alors, je suis partie à la première personne, et puis, je sais pas, j'avais envie que cette femme s'adresse à son mari. Elle avait visiblement des choses à dire à son mari. Donc, il répond, il y a des scènes dialoguées aussi, mais c'est vrai que même s'il fait partie des personnages principaux, on l'entend assez peu. Et puis, comme c'est elle qui raconte ce qui se passe. Enfin, oui, c'est vrai, il y a aussi des passages plus généraux, mais c'est peut-être aussi comme si elle-même cherchait à se rappeler ce qui s'était produit, comme si elle essayait de donner de la réalité à quelque chose qui a été finalement un peu irréel dans son esprit.
Si bien que nous, en tant que lectrices et lecteurs, on peut aussi ne pas tout à fait lui faire confiance, et qu'on peut aussi considérer que la manière dont cette femme nous présente et les éléments, et les êtres en présence, et les animaux, et la venue de policiers, et même l'architecture, et même la manière dont sa cuisine s'agence, est un langage de faille, est un langage qui est pas du béton, pour prendre des termes un peu de construction.
Oui, c'est ça. J'aime bien l'expression, c'est un langage de faille. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est toute la question. À mon avis, on peut lui faire à peu près confiance dans ce qu'elle dit. En revanche, qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Il y a visiblement des interstices dans le livre. Et là, peut-être que se glissent des événements auxquels elle aurait plus ou moins participé et qui ne sont pas complètement élucidés, oui.
Et qu'elle aurait tout intérêt à garder secret, ne pas dire, ne pas montrer.
Mais oui, parce que au départ, il semblerait que, enfin, le climat dès l'installation dans l'écoquartier est absolument catastrophique dès la première minute en raison de l'installation des voisins. Donc il y a un couple à côté qui s'appelle les Lecoq, et les Lecoq semblent absolument maléfiques. Enfin, c'est les voisins, c'est les pires voisins du monde, c'est les voisins que personne n'a envie d'avoir. Et le roman se noue autour de ça, sauf qu'au bout d'un moment, on peut se demander quelle est la part de ce couple-là et de l'autre couple. Enfin, les responsabilités sont peut-être un petit peu diluées dans la catastrophe finale.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Julia Deck.
Après quoi, je suis remontée à la salle de bain. Assise au bord de la baignoire, j'ai hurlé. J'ai crié pour épuiser mes nerfs, vider ma poitrine de toute la pelote amassée depuis le déménagement, puis j'ai écouté ma respiration. Je me suis répété, tout va bien, c'est juste un mauvais moment à passer, on va finir par s'habituer à cette maison. C'est là que j'ai entendu un gloussement. J'ai d'abord cru que je l'avais inventé, une réminiscence infernale venue me hanter pour me punir de je ne sais quoi, de faillir, de n'être jamais sûre. Un second rire très net s'est fait entendre. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Mais la lucarne était demeurée entr'ouverte, à quelques mètres de la salle de bain mitoyenne. Mon cœur s'est rétracté d'horreur. J'ai compris que je n'avais plus le droit de crier, qu'il faudrait ravaler ma rage jusque dans mon abri le plus intime, parce que rien de ce qui se déroulerait ici ne demeurerait caché. Surtout, j'ai compris que j'allais mordre la poussière.
Julia Deck, Lucie Riandel lit un extrait de votre texte « Propriété privée » et c'est vrai que c'est horrible et c'est vrai que c'est cauchemardesque, mais moi ça me fait beaucoup rire en fait. Je dois l'avouer, c'est horrible ce moment où elle se rend compte qu'elle ne pourra plus hurler dans sa salle de bain, qu'elle ne pourra plus crier fort parce que plus rien ne sera secret et caché. C'est l'une aussi des illusions qui tombent, c'est qu'ils fuient la grande ville, tous ces gens-là, pour aller vers plus de de verdure, pour aller vers plus d'espace, ils se retrouvent avec plus de promiscuité et ça va les tuer tous. Mais comme si vous disiez, en somme, que le secret, que le cachet, que l'interstice qui est tu, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était la seule bonne règle possible pour vivre ensemble. Que ce soit à deux dans un couple, que ce soit avec les voisins, ou que ce soit plus largement en société, que cette société de l'ultime transparence et de l'ultime promiscuité, elle n'était pas possible.
À mes yeux, elle n'est pas possible, elle n'est vraiment pas possible du tout. Mais bon, je veux pas procéder à des généralités. À vrai dire, il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec un psychiatre qui m'expliquait qu'il y avait deux catégories de personnes. Il y avait des personnes introverties et des personnes extraverties, ce qu'on peut assez facilement concevoir, et que les personnes extraverties vivent assez bien sous le regard des autres en permanence. Enfin voilà, c'est leur milieu naturel. Et les personnes, c'est pas introverties, c'est introverties. Introverties, ben non, elles ont besoin d'espace d'intimité où on se reconstitue. J'ai quand même l'impression que la plupart des gens ont besoin de cet espace d'intimité. Et l'écoquartier, oui, c'est en l'occurrence le cauchemar de la transparence. Après, je me suis interrogée aussi sur la question pourquoi est-ce que ça m'interroge tellement ce rapport entre la promiscuité et l'intimité, l'espace public. Je me dis que quand on écrit des romans, on a un rapport à la solitude assez particulier qui est lié à l'activité sans doute. C'est qu'on a besoin de moments de solitude absolue et de silence pour écrire parce que sinon on écrit mal, on écrit peu, donc cette solitude elle est essentielle. Et puis après on se plaint d'être seul et de pas avoir une vie au quotidien assez palpitante. Donc je me trouve sans doute confrontée, comme beaucoup de personnes qui écrivent, à cette dualité, cette envie de socialiser et puis ce besoin de se retirer en permanence sur de longues périodes. Et j'ai l'impression que c'est une dualité qu'on peut pas vraiment résoudre. Enfin, il faut simplement s'y acclimater si on a l'intention de continuer à écrire des romans, quoi.
Mais c'est aussi parce que peut-être ça résonne avec des questions plus élargies ou plus élargissables à la société. La question de la transparence, la question d'une autre forme de promiscuité qui est induite par, je sais pas, des nouvelles conditions de travail, les réseaux sociaux, des grands groupes ou bien américains ou bien européens qui ont accès à l'ensemble de nos mails, de nos photographies, de nos musiques, de nos goûts musicaux. C'est-à-dire que c'est aussi des questions qui se posent sur des choix de vie politique, des choix de cité. Aujourd'hui, Julia Deck, et que finalement, les questions que se posent vos personnages de romans à l'échelle de leur écoquartier, en fermant ou en ouvrant la lucarne de leur salle de bain, c'est aussi est-ce qu'on accepte telle ou telle application entre dans notre téléphone pour avoir de contact.
Ah oui, ben absolument. Cette question, elle se pose en permanence. Mais c'est vrai que dans le livre, j'ai choisi de pas faire intervenir cette société ultra technologique dans laquelle on vit en permanence. Parce que c'est justement le projet de ces gens dans l'écoquartier. Ils rêvent de cette convivialité qui n'aurait plus besoin des réseaux sociaux, de tous les. Enfin, ils rêvent d'une forme de retour à l'authenticité, à l'essentiel. Et puis finalement, ça fonctionne pas tellement bien non plus, parce que c'est une espèce de rêve hors sol qui arrive, qui est un peu livré comme on vous livrerait un truc sur Amazon. Zone, on vous livre votre maison avec toutes les options écologiques, et c'est un rêve qui n'a pas été tellement pensé. Donc il y a sans doute un parallèle avec la société de la transparence technologique, mais en l'occurrence je pense que j'ai pas fait intervenir beaucoup d'informatique, par exemple.
Mais nous ça peut avoir des résonances. Par exemple, je pense à tous les débats qu'il y a sur la protection des données personnelles. Il y a plein de gens qui répondent mais moi j'ai rien à cacher, et c'est aussi au cœur de la tension de votre roman. C'est qui a quelque chose à cacher, qui fait semblant d'avoir rien à cacher, qui va hyper ouvertement chez son voisin un après-midi de 14 à 17 pour y faire l'amour, et en se disant bah finalement c'est peut-être la meilleure manière de cacher que j'ai mon voisin pour amant. Toutes ces questions-là, elles sont presque présentées. En effet, qu'on soit au 21e siècle, ça aurait très bien pu être, il n'y avait pas d'éco-quartier dans les années 50, mais ça, finalement c'est assez archétypal de ces questions d'intimité, d'extimité.
Oui, a priori, la plupart des gens n'ont rien à cacher. Mais à partir du moment où vous les forcez à tout dire et à tout donner, mais bien sûr qu'on a le sentiment que son être intime se délite et on prend conscience de cette cette nécessité de préservation.
Dans vos presses ou dans romans, il y avait aussi toujours des histoires de choses qu'on ne dit pas et qui planent comme ça, un peu comme des secrets ou des incertitudes et qui mettent, je le disais tout à l'heure, la lectrice et le lecteur dans une position où il n'est pas exactement sûr. Par exemple, dans un autre roman, moi je sais que j'ai beau l'avoir relu plusieurs fois, j'étais plus très sûre de savoir s'il y avait eu un psychanalyste de tuer ou pas. Et comme si l'ambiguïté dont vous parliez au départ, Julia Deck, allait jusque-là. C'est pas votre problème de savoir si on va sortir certaines intrigues.
Je tiens beaucoup à l'incertitude et c'est pour ça que l'urbaniste du roman, elle travaille sur une notion urbanistique qui s'appelle l'espace incertain. L'espace incertain, en l'occurrence, c'est le roman. Ça me vient de mes goûts de lectrice, à vrai dire. Je n'aime pas être absolument certaine de tout ce qui se produit dans un livre. J'aime pas lire et l'histoire et l'explication de l'histoire. J'ai besoin d'une part d'interprétation et les livres qui me plaisent le plus sont des livres qui, une fois arrivé à la dernière ligne, me donne envie de repartir au début. Et souvent, je fais ça. J'arrive au dernier chapitre.
Combien de fois?
Et puis je lis le premier à nouveau.
Combien de fois vous le faites?
Ah non, je tourne pas en boucle. voilà. Mais souvent, relire le premier chapitre à la lumière du dernier, je trouve que c'est un plaisir assez savoureux. Maintenant, je cherche pas non plus à égarer complètement mon lecteur. C'est vrai que dans les précédents livres, il y avait, en tout cas celui dont vous parlez, Viviane et Elisabeth Fauville, oui, il y avait peut-être une incertitude sur la fin. Là, mon idée, c'était de terminer sur une fin ouverte. C'est-à-dire que la question de l'éco-quartier, toute l'intrigue qui se autour du chat dans l'éco-quartier, le voisinage, tout ça, c'est clos. Maintenant, il est possible que tout ne soit pas résolu et ce qui n'est pas résolu ouvre peut-être sur un prochain livre. En tout cas, je l'espère.
Au début, ce ne sont que des abstractions avec des noms qui généralement ne collent pas. Et donc, il y a vraiment un travail assez long pour trouver le nom qui va convenir au personnage.
Parce que c'est pas n'importe quoi les noms.
Ah non, ça, les noms, c'est vraiment une espèce d'empreinte génétique du personnage de fiction. Un nom définit physiquement un personnage. Bon, ça, de toute façon. C'est pas quelque chose que j'ai. Enfin, je crois que Flaubert parle très magnifiquement de ça, du statut des noms. Il y a quelque chose que j'aime bien, c'est. Enfin, je lis beaucoup les génériques. Les génériques de films, les génériques d'émissions de télévision. J'adore lire des noms. Bon. Et c'est souvent dans les génériques de films que je. Enfin, il y a des noms que je note et qui me servent souvent. Et Moisy-Éon, c'était le patronyme d'une script d'émission de la télévision française au début des années 60. Enfin, je crois qu'elle s'appelait Michel Moisy-Éon. Et ça, c'est vraiment un souvenir d'enfance. Enfin, ce nom m'avait frappé. Et curieusement, quand j'avais lu par la suite Pierrot, mon ami, j'avais pas accroché avec cette petite connexion-là. Bon, donc les noms, ils peuvent apparaître immédiatement. À peine convoqué, le nom qui conviendra survient. Et puis, il arrive aussi qu'au fil des écritures successives, un personnage change 4-5 fois de nom jusqu'à ce que vraiment je trouve ce qui le définit le mieux. À la fois physiquement et à la fois qui peut induire quelque chose de sa personnalité, de son caractère, de son origine.
1993, c'est la voix de Jean Echenoz au micro de Marianne Alphand dans l'émission Le Bon Plaisir sur France Culture. Julia Deck, il faut être patient pour rencontrer les noms des personnages. Et on parlait en tout début d'émission de la surprise et du suspense. Et moi, à chaque fois qu'un nom est apparu, je me gourre peut-être, mais j'ai eu l'impression que c'était la première fois que je le lisais et qu'il venait me surprendre et presque donner une définition qui me manquait du personnage de votre roman. Est-ce que vous avez ce même goût des noms décrits par Jean Echenoz?
Oui, un goût des noms et puis la certitude que c'est essentiel pour habiller un personnage. D'ailleurs, on le sent souvent à la lecture d'un roman quand le nom ou le prénom a été trop vite choisi, je trouve.
il faut que le nom donne une première impression du personnage. C'est aussi important que tout le reste de ce qui peut le définir, sa profession, son âge, enfin voilà, la manière dont il se comporte. Et dans ce livre-ci, je me suis confrontée à la difficulté inverse du livre précédent où je cherchais des noms assez sophistiqués, assez inattendus. Là, je me suis dit au contraire, je cherche pour mes personnages dans cette banlieue parisienne anonyme, je cherche des noms banals. Et finalement, c'est pas facile de trouver un nom banal parce qu'il faut que ce soit banal sans l'être trop. Dupont, ça va pas, par exemple. On peut pas appeler quelqu'un Dupont ou Martin, c'est les noms de famille, les patronymes les plus usités en France.
Ou alors faut faire une blague avec.
Ou alors il faut faire une blague avec, voilà, c'est trop caricatural, donc ça marche pas. Et donc, et ça m'a pris pas mal de temps de trouver ces noms à peu près où il y aurait, voilà, où ça semblerait à peu près crédible sans être caricatural. Donc oui, les personnages ont changé de nom. Il y en a, parfois ça vient assez facilement, mais parfois oui, ça peut être comme disait Jean Echenoz, un générique de film ou avant ça pouvait être l'annuaire. Enfin, et puis alors maintenant on est confronté à une autre difficulté qui tient à la transparence des données dont on parlait tout à l'heure, c'est que parfois on trouve un nom qui est super, sauf que quand on tape ce nom dans
il
Google,
existe.
Il existe et il faut surtout pas que
il
la personne
a pas
question...
hyper envie d'avoir tuer un chat, voilà. Ou massacrer un chiot, ou
voilà,
que sais-je.
Il n'a pas envie qu'on lui fasse faire n'importe quoi, donc ça m'est arrivé plein de fois, ouais, de modifier un nom parce que la personne existait dans Google au moins.
Quand vous dites ça me paraît très important de définir mes personnages avec le nom, mais autant que savoir si il ou elle cultive des soucis dans son jardin ou choisit tel ou tel emplacement pour sa cuisinière, d'accord, mais ils arrivent tard. En tout cas, ils n'arrivent pas tout au début, non ?
Ils arrivent tard.
Je sais pas, par exemple, le prénom d'Eva.
Ah, le prénom d'Eva, oui, je me suis demandé si, comme elle raconte toute l'histoire, je me suis demandé si c'était nécessaire de lui donner un prénom. Et puis finalement, je trouvais qu'un personnage complètement anonyme, c'était problématique. Et j'aurais pu faire intervenir le prénom plus tôt. Il y a des dialogues assez vite dans le roman, donc c'était assez facile de caser son prénom ici ou là. Et puis finalement, je me suis dit que non. Peut-être qu'on aurait ce petit moment de surprise, pour revenir à la question de la surprise, quand il intervient finalement, c'est peut-être au bout de 100 pages, je me souviens plus. Il y a deux occurrences, voilà, elle s'appelle Eva, mais c'est un petit signe comme ça.
Vous parlez de dialogue, on va écouter Deborah Eisenberg parler de l'écriture des dialogues.
J'aime écrire des dialogues. J'aime cette sensation d'écouter par hasard quelque chose ou de voir quelque chose d'un endroit un petit peu écarté. Je pense probablement que c'est plus une écriture cinématographique que théâtrale. Vous savez, les dialogues, très certainement, suggèrent le théâtre. J'aime bien écrire sous forme de dialogue. Mais avec une pièce de théâtre, et je pense que c'est la raison pour laquelle j'en ai pas écrit plus, bien que j'ai eu une merveilleuse expérience lorsque j'ai écrit cette pièce-là, c'est que, avec une pièce, le dramaturge a une relation avec les personnages, et c'est d'être face à eux. On ne bouge pas. L'écrivain de roman, eh bien, il peut se glisser partout, et j'adore ça, être capable de me déplacer, la grande mobilité
que permet le roman. Deborah Eisenberg, ici au micro de Kathleen Evin, Julia Deck. J'aime bien cette idée-là, que c'est presque une sorte de caméra, le roman qui nous permet comme ça de se déplacer dans le monde, de faire des mises au point à des endroits qu'on a plus envie d'entendre ou plus envie de voir. Est-ce que c'est un espace que vous investissez avec encore plus de plaisir que le reste, Julia Deck, l'écriture des dialogues?
Oui, c'est très particulier l'écriture des dialogues, et ça rejoint un petit peu la problématique des noms banals dont on parlait tout à l'heure. Il faut
que ça coule de source et en même temps ça peut pas être banal, il faut que ce soit construit, ça peut pas être banal comme un dialogue absolument décousu dans la vie de tous les jours, il faut que ça aille quelque part en fait. Si vous quand on insère un dialogue au milieu d'un passage narratif, c'est parce qu'on a besoin de faire entendre la voix des personnages et c'est aussi parce qu'on a besoin que ça nous amène quelque part, que ça nous révèle quelque chose sur eux et que ça nous amène à la scène suivante. Et tout ça avec le plus de naturel possible. Là encore, un dialogue artificiel qu'on prononcerait jamais dans la réalité, ça choque l'oreille tout de suite.
Mais c'est un rouage.
Mais c'est un rouage, oui, c'est un rouage. C'est un rouage, évidemment. Et après, ça permet, oui, c'est vrai, ça permet d'emprunter à. C'est pas nécessairement la manière dont on parle soi. On peut emprunter les façons de parler de n'importe qui. Et ça, c'est aussi une forme de voyage. À vrai dire, j'adore emprunter des dialogues dans le bus, par exemple.
Vous tendez l'oreille?
Je tends l'oreille. Oui, je tends l'oreille. Ça, si j'avais pas pratiqué le roman, peut-être j'aurais pratiqué l'espionnage. Mais le bus, plus que le train, j'aime beaucoup le train pour d'autres raisons, parce qu'on écrit bien dans le train, mais dans le bus, voilà, on est exposé à toutes sortes de dialogues ou de monologues avec les téléphones portables, les gens qui parlent tout seuls. On est exposé à plein d'informations dont on peut s'exaspérer, mais qui sont très très utiles dans l'écriture du roman.
J'ai complètement oublié, je l'ai entendu sur cette chaîne Chérique et France Culture, que tous les écrivains avaient été des enfants espions. Je sais pas du tout où, qui a dit ça ou quoi, mais je trouve que ça tombe fort à propos.
Ça me rassure énormément. Ça me rassure énormément. Je me disais que c'était peut-être mon tropisme d'enfant unique où, voilà, on a peut-être plus tendance à espionner, mais oui, alors, merci.
Manière d'avoir engrangé comme ça pendant des années et des années, des conversations épiées, des choses vues, etc. Et qu'en réalité, quand les écrivains se mettent à écrire, c'est juste parce qu'ils ont un bon bagage d'enfants espions qu'ils ont trimballé avant de se mettre à l'ordi ou au carnet.
Mais oui, il y a sans doute beaucoup de matériel de cet ordre, tout autant que des influences littéraires, à vrai dire.
Est-ce que c'est une forme un petit peu de la dimension sociologique que comporte votre roman, qui goûte la fiction, qui franchement qui l'aime dans tous les angles, qui est aussi une enquête policière. Enfin, ça va, vous vous privez pas d'écrire un roman, Julia Deck. Par ailleurs, vous proposez aussi avec ce texte-là vraiment une sociologie de certains quartiers des grandes villes françaises.
Oui, j'espère, à vrai dire. Mais si on regarde les grands romans du 19e qu'on a eu tant de plaisir à lire, Balzac, Flaubert, Zola, ce sont à peu près tous des romans sociologiques. En tout cas, l'inscription sociale, la classe sociale, les comportements sociaux liés à la classe des personnages est essentiel. C'est un ressort de l'intrigue fondamentale. Et c'est aussi pour ça qu'on les apprécie, pour la peinture de l'époque, la peinture des rapports sociaux, la satire sociale. Moi, j'ai vraiment un grand appétit pour ces livres-là. Et les livres qui m'intéressent aujourd'hui parlent aussi de leur époque. Je suis très sensible à la qualité d'écriture, je suis très sensible à l'intrigue, mais j'ai envie de penser que le roman permet toujours de travailler l'époque, ses contradictions, les contradictions qu'on n'arrive pas nécessairement à résoudre.
C'est ce que je veux dire, de comprendre ou de le décrire justement cette époque-là.
En tout cas, ça permet de travailler les contradictions pour soi et peut-être pour le lecteur et de permettre d'élaborer à partir de là. Pour moi, c'est pas simple. Bien sûr, il y a le plaisir de lecture, mais un roman, un livre qui nous touche, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avancer dans notre chemin.
Et vous n'avez été que force observatrice, ou vous avez lu, ou vous avez juste écouté les gens parler de leur nouvelle accession à la propriété privée et de leur vote à la présidentielle?
Ah, oh bah, c'est toujours un échange entre soi et l'extérieur.
Max Ernst, prenant l'exemple de cette phrase « Attention, un train peut en cacher un autre », a écrit cette phrase que je trouve très belle « Attention, un masque peut en cacher un autre ». Et qu'est-ce que cache un masque? Alors, il faudrait regarder du côté, par exemple, des histoires de le Lorrain, d'autres histoires du 19e siècle, sur, au fond, les faux masques, les faux visages. Par exemple, vous pouvez avoir un personnage qui, enlevant son masque devant sa glace, ne voit plus rien. Il n'y a rien derrière le masque, il y a le vide. Ou bien, il peut voir la même figure que celle du masque. Vous voyez, vous avez le vampire qui enlève son masque de vampire, et c'est Dracula. Ou bien, il peut, par exemple, ce masque peut, quand on l'enlève, révéler ce que le visage dissimule. Il y a une formule de, dans un autre monde du dessinateur Granville, de vers 1850. Et cette formule, c'est attribuée à Talleyrand. Le masque a été donné à l'homme pour faire connaître sa pensée. Puisque le visage a été donné à l'homme, semble-t-il, pour cacher sa pensée. Il y a un autre texte dans un autre monde de Granville qui est « Mets ton masque et je te dirai qui tu es ». Alors évidemment, vous avez très souvent enfin, le masque qui est au fond la seule réalité un peu stable par rapport à la mobilité du visage et par rapport au mensonge, ou la seule réalité stable par rapport à un vide. Finalement, le masque serait la, une sorte de petite monnaie du néant.
C'est délicieux cette archive. On y entend Gilbert Lascaux en 1981 dans l'émission Nuit magnétique sur France Culture, Julia Deck, de ce théâtre social que vous décrivez si bien, et qu'il soit établi à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une petite communauté d'écoquartier ou à l'échelle du couple, qui est aussi un mini-théâtre social dans lequel on met des masques. Vous diriez que vous démasquez vos personnages ou que vous les regardez précisément les mettre et les démettre ?
Les maîtres et les démaîtres. Oui, bah le masque il est nécessaire en société et enfin comme vous dites à partir du moment où on est deux où on veut instaurer un rapport qui est plus ou moins simple selon les moments selon la situation on a besoin de ce masque de ce langage commun qui nous permet de nous comprendre et en même temps les personnages du livre donc dans cette micro société, ils s'infligent à eux-mêmes des masques qui sont trop lourds pour eux, à vrai dire. Et donc tout vole en éclats finalement parce qu'ils n'arrivent plus à être le personnage qui se croit obligé d'être en permanence dans ce théâtre quotidien.
Parce que je citais ce passage où j'ai vraiment fait attention de ne rien dire de l'intrigue policière, mais donc à un moment donné, il y a des policiers qui arrivent et qui disent que vraiment c'est tous des maboules. Et j'ai adoré que le mot maboule arrive et je me suis dit, ah oui, c'est ça, on est tous des maboules avec toutes nos petites mabouleries. Et la normalité, c'est vraiment l'une des plus grosses mabouleries qui nous pèse et contre laquelle on se cogne avec nos désirs, avec nos illusions, avec nos aspirations. C'est aussi une des choses qui est au cœur de votre texte, Julia Deck, c'est ces masques qui pèsent trop lourd et qu'on s'oblige à se mettre un peu tout seul.
Ah oui, la normalité, c'est une vaste supercherie, parce que on est tous les maboules des autres. Hein. C'est la norme, elle se définit, elle se redéfinit en permanence. Là aussi, c'est la question du langage commun. Bien sûr que la norme est nécessaire, mais en même temps, le mot norme est devenu tellement normatif que ça me gêne de l'employer. Mais c'est évident qu'on va dans une société qui est de plus en plus comme ça, qui est de plus en plus chiffrée, de plus en plus où on est évalué en permanence, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans nos métiers. Enfin, on a une forme de notation de la vie quotidienne qui est insupportable pour tout le monde et en même temps on la maintient. Enfin, il n'y a pas vraiment de révolte vis-à-vis de ça.
Et croyant y échapper en allant dans des écoquartiers, on ne fait que y mettre les deux pieds dedans.
Ben, on ne fait que réinstaurer une norme archi pesante. Donc, enfin, je veux pas non plus donner l'impression de faire un travail, un roman complètement nihiliste. D'ailleurs, c'est pas du tout ma vision. Moi, je pense tout à fait qu'on peut échapper en partie à la norme, mais la question, c'est d'arriver à travailler le rapport de sa propre singularité avec la norme en permanence. Et c'est aussi une des questions du roman.
Je crois que l'ironie, c'est quelque chose. Enfin, je revendique pas l'ironie. Hein, de même, on peut pas revendiquer l'humour. Sinon, on le perd complètement. Et puis
on est comme ça.
Oui, non, je crois que l'ironie c'est quelque chose d'amoureux aussi. Quand même, c'est pas simplement une dérision, une mise à distance, et un pas de côté. C'est aussi une façon peut-être un petit peu, je sais pas, médiée, peut-être un petit peu tordue d'exprimer de l'amour en ne le montrant pas. Donc peut-être, je sais pas, en aimant d'autant plus qu'on ne le montre pas.
Je disais tout à l'heure, Julia Deck, que c'était très difficile pour moi de ne pas sourire, voire de ne pas rire en lisant les situations cauchemardesques dans lesquelles se retrouvent vos personnages. On entend ici de nouveau Jean Echenoz au micro de la regrettée Pascale Casanova en 2003 sur France Culture, qui ne peut pas revendiquer l'ironie, mais qui l'utilise, que vous utilisez aussi. Comment réagissez-vous à l'idée selon laquelle l'ironie, ce serait presque une manière amoureuse d'écrire ?
Mais je suis absolument d'accord. C'est quelque chose qui est peut-être un peu, oui, tordu, difficile à comprendre, mais c'est très clairement une marque d'affection pour les personnages, voire d'amour. Et évidemment que ça instaure une petite distance, mais c'est peut-être aussi une distance de protection et de pudeur pour dire des choses qu'on serait pas, on serait moins à l'aise à dire autrement. Donc oui, pour moi, c'est plutôt une forme de pudeur. Et l'ironie, parfois, c'est peut-être même un mot un peu fort. Enfin, parce que ça peut facilement, on peut facilement penser que c'est
moqueur,
c'est,
alors que
c'est moqueur ou cynique. Et alors là, je me défends absolument de faire de quelque chose. Pour moi, le cynisme, c'est le mauvais côté de la barrière.
La petite distance, ce serait laquelle ? Alors, ce serait peut-être la juste distance à laquelle se tenir pour regarder, pour juste être un peu calmement en mesure de décrire ?
C'est le bon point de vue par rapport au personnage et à la situation. Est-ce qu'on veut en montrer ? Est-ce qu'on est dans l'action ? Quand on est dans l'action pure, on peut pas. Il n'y a pas de place pour l'ironie, pour la distance, pour l'humour. À partir du moment où on décrit des situations plus sociales, bien sûr qu'il faut reculer un petit peu la caméra, par exemple.
Donc ce serait un sourire. Ce serait finalement peut-être de l'ordre de la presque de la tendresse, quoi.
Oui. Je préfère sourire et une forme de sourire tendre, oui. Mais bon, qui peut aller éventuellement avec un meurtre de chat, quand même.
Qui aime bien, châtie bien.
Voilà, exactement.
Châtie bien. Oh, magnifique. Merci beaucoup, Julia Deck. Propriété privée et publiée aux éditions de Minuit.
Le monde est merveilleux, la vie c'est merveilleux, une journée passe, elle ne sera jamais plus la même que les journées qui passeront.
À la prise de son ce soir, c'était Laurie Vachon. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Lucie Riandet, Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre et Marianne Chassor. C'est aussi une page Par les temps qui courent sur franceculture.fr et aussi un podcast auquel vous pouvez vous abonner. Tous les moyens sont bons, mais pourquoi pas l'application de Radio France. Très belle soirée à vous, c'est le journal, tout de suite à 22h sur France Culture.
Merveilleux. Merci. Un enfant, c'est merveilleux. Qui passe, c'est merveilleux. Oh, un enfant passe. Il ne sera jamais plus le même. Mais je sais bien qu'il repassera quand même. Un enfant passe son chemin, puis s'immobilise et reprend son chemin. Oups! Attention! Vas-y.